présidentielle américaine, édition spéciale, veille électorale 2020 sur VOA Afrique. Au micro, Idrissa Seydoudia en compagnie ce matin de Timothée Donangmaï, Jean-Roger Bion et nos invités. Lutte serrée entre le président républicain Donald Trump et son rival démocrate Joe Biden après la présidentielle du 3 novembre, dont l'issue dépendra certainement des résultats définitifs dans quelques États clés. Hier soir, messieurs Trump et Biden avaient gagné là où l'on attendait leur victoire. Dans leurs efforts pour atteindre le chiffre magique de 270 grands électeurs du collège électoral de 538 membres qui détermine le vainqueur de la présidence des États-Unis dans le cadre de leur démocratie indirecte, à la différence du vote populaire. Cela dit, les résultats dans plusieurs États importants ne seront pas connus de sitôt, étant donné les dizaines de millions de votes de mardi et les précédents 101 millions dans le cadre du vote anticipé expliqué par la pandémie de coronavirus. Édition spéciale, veillée électorale 2020 sur VOA Afrique, nous retrouvons tout de suite Jean-Roger Bion pour les derniers résultats. Jean-Roger.
Bonjour Idrissa Seydoudia, bonjour à nos auditeurs. Disons qu'à ce moment précis, les compteurs de la VOA restent bloqués à 210 grands électeurs pour le démocrate Joe Biden et à 137 pour le républicain Donald Trump. Ce sont à ce moment précis, je l'ai dit, les résultats compilés et vérifiés, voire consolidés par la VOA. Beaucoup d'autres résultats sont tombés, mais qui restent à vérifier, dont les résultats de la Floride, du Texas et de la Pennsylvanie. Ce sont des États qui pourraient faire basculer la course à la Maison-Blanche. En attendant que ces résultats soient vérifiés par les compteurs de la VOA, les deux candidats se sont exprimés aux premières heures de ce mercredi. Donald Trump a prédit sa grande victoire donc ce matin à la présidentielle américaine en promettant de s'exprimer dans la nuit avant le lever du jour aux États-Unis. Tandis que son rival démocrate a déjà parlé, il affirmait qu'il allait gagner ce duel encore extrêmement serré. Une grande victoire a donc tweeté le président américain, bien que le résultat de plusieurs états clés n'ait pas encore été annoncé, et l'ancien vice-président Joe Biden s'est montré, lui, confiant lors d'un discours en personne dans son fief de Wilmington, c'est dans le Delaware. Donc, en conclusion, 210 grands électeurs pour Joe Biden et 137 pour Donald Trump dans la voie vers les 270 grands électeurs, chiffre magique donc pour amener l'un des deux candidats à la Maison-Blanche. Je vous retrouve dans 10 minutes pour encore plus de précisions. Idrissa Seydoudia.
Merci beaucoup Jean-Roger Bion. Alors, nous vous retrouverons effectivement dans moins de 10 minutes pour éventuellement, comment dirais-je, entendre les derniers résultats. Pendant ce temps, je vous signale, Jean-Roger, que le président Trump va parler. On s'attend à ce qu'il parle directement. Vous avez fait allusion au tweet qu'il a envoyé plus tôt dans la soirée, mais il va s'exprimer tout à l'heure. On s'attend à une intervention de M. Trump. Alors, nous accueillons nos invités. Timothée Donangmaï est là en compagnie de Jean-Roger Bion. Alors, le professeur Edgar Colli va se joindre à nous, tout comme notre confrère René Lec. Monsieur Edgar Colli est déjà là, il est à Bellingham, Washington State, et René Lec, c'est un analyste politique que vous connaissez très bien, et qui est basé ici à Washington, D.C. Tim, à vous.
Oui, alors, professeur Edgar Colli, les élections qui ont drainé des foules ont suscité un grand enthousiasme. Et à l'issue de ce scrutin, le grand défi qui se pose maintenant, c'est de compter tous les bulletins de vote, notamment ceux qui sont arrivés dans le vote anticipé et qui étaient évalués à plus de 100 millions déjà, professeur Colli.
Oui, évidemment, c'est un nombre très important. Et malheureusement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faudra attendre les prochaines heures pour savoir exactement où se situe la victoire des uns et des autres. Si vous voulez la victoire de Trump ou de Joe Biden, les résultats finaux ne seront connus probablement que dans les prochaines heures, disons demain ou jeudi. Mais pour le moment, n'est-ce pas, chacun des deux candidats se montre confiant. Les résultats qui s'affichent au fil des heures montrent quand même une image qui pourrait peut-être donner une certaine confiance selon que l'on est du côté de Trump ou du côté de Biden. Mais pour le moment, c'est toujours l'incertitude à mon avis. Le compte des grands électeurs donne un léger avantage au vice-président Joe Biden. Mais c'est encore trop tôt pour se prononcer.
René?
Oui, Idrissa, comme le disait le professeur Colli, effectivement, le décompte au moment où on se parle est de 220 pour Biden, 213 pour Donald Trump, mais bien entendu, cela ne correspond pas à ce que seront les chiffres dans peut-être encore une heure ou deux. Mais en tout cas, je crois que pour l'instant, on peut, je vous le disais, je crois, il y a à peu près une heure, on va se retrouver dans un ou dans deux scénarios. Il y a deux options possibles de scénarios. Le scénario, le premier, ce serait qu'on se retrouve dans une situation de 2016 où Donald Trump garde son mur rouge et arrive à pénétrer celui de le bleu des démocrates, donc de Biden, en gagnant le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Bon, cette probabilité, elle n'est même plus vraiment possible puisqu'il y a déjà ce qu'on appelle un flip, un renversement de couleur, hein. Un État qui est rouge, qui est passé en semi-bleu, j'ai envie de dire, c'est le Nebraska, et il semblerait que l'Arizona également va passer du côté de Biden. Mais ça donne quand même, malgré tout, si Donald Trump arrivait à gagner le Wisconsin, par exemple, et la Pennsylvanie, il devrait arriver au-delà des 270. Mais bien entendu, si Joe Biden, qui a fait de sa stratégie depuis le début la reconstruction de ce mur bleu en récupérant ces trois États que Donald Trump avait gagnés, s'il y arrive, et j'ai l'impression qu'on devra attendre un bon petit moment avant d'avoir les résultats, notamment de la Pennsylvanie, s'il y arrive, il sera certainement, bien entendu, le vainqueur.
La Pennsylvanie, l'un des trois États dont vous parlez, les deux autres étant le Wisconsin et le Michigan, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors, maintenant, aucun des deux candidats n'a revendiqué la victoire. Hein? Je crois qu'ils savent aussi que c'est prématuré.
Oui, tout à fait. Bon, Joe Biden a quand même dit qu'il pensait que ils étaient sur la bonne voie, invitant les gens à aller se coucher, se reposer tranquillement, et qu'ils pensent que au bout du compte, quand toutes les voix seront comptées, il aura la victoire parce qu'il compte gagner ces trois États là en question dont nous parlions. Donald Trump, lui, de son côté, il va parler là tout à l'heure, on va voir ce qu'il va dire, mais il accuse déjà les démocrates de vouloir lui voler sa victoire.
En parlant de voler une victoire, ce qu'on appelle en Afrique le hold-up électoral, n'est-ce pas?
Tout à fait, oui. Idrissa, c'est amusant, parce que pour nous, amusant, entre guillemets, bien entendu, pour nous, Africains, il y a quelque chose de très africain dans l'élection de cette année. Ce matin, je faisais un tour autour de la Maison Blanche, dans le Black Lives Matter Plaza, au niveau de la 16e rue qui débouche sur la Maison Blanche. Il y avait quelques manifestants qui étaient présents. Mais ce qui était surtout frappant, c'était les commerces. Pratiquement tous les commerces avaient des grosses planches de contreplaqué sur leur vitrine. J'ai vu les mêmes images à New York et dans d'autres villes. Et ce n'est pas un, ce n'est pas une situation à laquelle on est habitué ici. Ça m'a rappelé tout de suite un bon Africain que je suis, moi qui ai visité beaucoup de pays en Afrique, qui ai participé à beaucoup d'élections sur le continent. Ça me rappelle les tensions qu'il y a dans nos pays à l'approche des élections présidentielles. Aux États-Unis, c'est quand même très surprenant, il faut le dire.
À l'approche, parlant des pays africains, à l'approche et à la publication du résultat.
Tout à fait.
Alors, professeur Colli, quand René a parlé de hold-up électoral, en fait, le président Trump a parlé spécifiquement d'un cas, c'est celui de la Pennsylvanie. Pouvez-vous nous en dire plus?
Oui, effectivement, parce que la Cour suprême de la Pennsylvanie vient de publier une décision qui dit que tous les bulletins de vote envoyés et avec le tampon de la vote, de la poste qui indique que ce bulletin a été envoyé au plus tard le 3 novembre, reçu dans les trois prochains jours, sera comptabilisé. Évidemment, pour le président Trump, ceci, n'est-ce pas, d'après lui, évidemment, serait peut-être irait en faveur des démocrates. Et donc, pour lui, tout vote au-delà du 3 novembre ne devrait pas être inclus dans le compte final du dépouillement. Et donc, à ce niveau-là, c'est pourquoi il a envoyé un tweet tout à l'heure qui disait, voilà, oui, les démocrates essayent de me voler ma victoire. Et je crois qu'il fait allusion à cette décision de la Cour suprême de la Pennsylvanie. Et bien entendu, ceci peut-être nous prépare à un challenge, n'est-ce pas, au niveau des résultats définitifs qui pourraient être proclamés dans les prochains jours, si Trump s'avérait être le perdant dans certains contextes. Et ceci, bien entendu, il l'a dit et il l'a répété bien avant aujourd'hui que, n'est-ce pas, les démocrates sont en train de se préparer à lui voler une élection et qu'il n'a pas ouvertement accepté qu'un jour, s'il perdait les élections, il reconnaîtrait sa défaite. Et donc, ceci, n'est-ce pas, est une image de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours.
Timothée?
Oui, professeur Colli, donc quel est le risque que représente une action judiciaire d'un camp ou de l'autre dans différents États? Et si cette élection finalement traînait à longueur, comment se sortirait-on d'un tel pas?
Mais c'est le risque, n'est-ce pas? Et je ne veux même pas imaginer, n'est-ce pas, un scénario de telle sorte. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre George Bush Jr. et Al Gore, où la Cour suprême
en 2000...
a décidé, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, bien entendu, je ne dis pas que la Cour suprême est acquise à la cause de Donald Trump, mais nous avons, n'est-ce pas, une majorité de juges d'obédience, disons, conservatrice, qui pourrait voter en faveur de Trump. Et je crois que Donald Trump mise sur ce déséquilibre au niveau de la Cour suprême pour, en cas de conflit sur les résultats définitifs de l'élection, lui peut-être, comment dirais-je, voter en sa faveur. Et donc, je crois que c'est un risque qui ne peut pas être négligé dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Si déjà, avant l'élection, aujourd'hui, le président Trump met en place une idée que les démocrates sont sur le point de lui voler une victoire qu'ils pensent mériter.
Pour une précision... trois des juges de la Cour suprême ont été nommés par le président Trump et les trois autres conservateurs auxquels vous faites allusion sont républicains, ont été nommés par des républicains. Mais cela ne veut pas dire automatiquement qu'ils vont faire ce que veulent les républicains ou vice-versa si, comment dirais-je, c'était la situation inverse avec les démocrates, n'est-ce pas? Ils se disent, les juges de la Cour suprême, ils se disent indépendants.
Absolument, et vous avez absolument raison. Rien n'indique qu'ils vont, n'est-ce pas, voter dans ce sens. Mais évidemment, le président Trump indique que ces gens-là, n'est-ce pas, surtout les derniers venants, je pense plutôt Jules Kavanagh et la dernière Madame Barrett, pourraient créer, n'est-ce pas, ce déséquilibre en sa faveur au cas où il y aurait une contestation au niveau des résultats de l'élection présidentielle. Il n'est pas assuré que ces juges, n'est-ce pas, vont voter selon l'image que Donald Trump veut créer. Mais évidemment, c'est effectivement ce que lui, il projette comme une possibilité pour arriver à un résultat qui lui serait favorable.
Et professeur, le fait est que ces juges de la Cour suprême sont nommés à vie. Donc, le président ou tout autre politicien a très peu de moyens de pression sur eux.
Et effectivement, vous avez absolument raison, n'est-ce pas? Le juge au niveau de la Cour suprême ne peut être ni révoqué, ni sanctionné par le président qui l'a nommé. Effectivement, cela, n'est-ce pas, garantit une certaine indépendance. Et c'est ce qui fait, bien entendu, la particularité de cette Cour suprême par rapport à ce que nous connaissons un peu partout ailleurs. Nous avons parlé du cas de certains pays africains. Évidemment, il y a eu une petite indication dans le cas du jugement qui a eu lieu dans le Vermont avec la position très claire, un peu partisane du juge Kavanaugh. Et je crois que le président Trump mise sur cette idée, une possibilité, ce n'est pas une garantie, mais une possibilité que ces gens-là pourraient, selon leur sensibilité politique ou sociale, voter en sa faveur.
On peut dire, professeur Collet, avant de passer à Jean-Roger Bion pour les derniers résultats, on peut dire qu'il y a eu un juge républicain dans l'État du Texas, n'est-ce pas, à qui le Parti républicain avait demandé d'annuler quelque chose comme 123 000 votes. Et le juge a refusé. Donc, rien ne dit que l'appartenance à tel ou tel parti va nécessairement déterminer le résultat de tel ou tel recours. Bon, Jean-Roger Bion, qu'avez-vous à nous annoncer? À ce stade, le président Trump n'a pas encore parlé.
Oui, le président n'a pas encore parlé, le sortant n'a pas encore parlé, mais Joe Biden avait déjà parlé. C'est plus que jamais le suspense à ce stade du décompte, du dépouillement. Il se poursuit donc très serré entre le candidat Biden et Donald Trump. 220 grands électeurs pour Biden à ce moment précis sur le compteur de la VOA et 184 pour Donald Trump, le républicain. Bon, sans surprise, les deux candidats septuagénaires ont rapidement engrangé l'essentiel des États qui leur étaient promis par toute la presse et l'opinion publique. Il s'agit de l'Indiana, le Kentucky, l'Alabama, l'Idaho, l'Idaho ou encore le Tennessee pour Donald Trump et la Californie, la Virginie, New York, le Colorado, le Delaware pour Joe Biden. À ce moment, sur le compteur de la VOA, je vous le rappelle, 220 grands électeurs pour Biden et 184 pour Donald Trump. Mais pour gagner la présidentielle, vous le savez tous, il faut atteindre 270 grands électeurs pour remporter cette course à la Maison-Blanche. Donc le scrutin est à ce stade plus serré que jamais. L'issue de l'élection devrait se jouer dans les États que l'on attend encore ici au niveau de la VOA. Il s'agit du Michigan, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. La Caroline du Nord pourrait également jouer les arbitres. Avant donc la fin du dépouillement, on peut dire que le dépouillement va prendre encore quelques jours à ce stade du décompte, en raison donc du vote par correspondance. Et les deux adversaires ont chacun assuré qu'ils étaient en passe de l'emporter par médias et réseaux sociaux interposés. Idriss Abia.
Ok, Jean-Roger, donc nous vous laissons surveiller de près cette intervention du président Donald Trump et nous vous retrouverons avant la fin de cette édition. Alors, à tout à l'heure. Timothée ?
Oui, Idrissa, alors on a parlé jusqu'ici de la présidentielle qui met aux prises le président Donald Trump et l'ancien vice-président Joe Biden, mais il y a aussi des élections au niveau du Sénat et au niveau de la Chambre des représentants. Et alors le Sénat qui est dominé par les républicains et dont les démocrates souhaiteraient prendre le contrôle, eh bien la tâche ne leur sera pas du tout aisée, puisque le leader du Sénat, le sénateur Mitch McConnell du Kentucky, a remporté son siège, a été réélu. Et il y a également un important sénateur, le sénateur Lindsey Graham de la Caroline du Nord, qui a lui aussi conservé son poste. Du Sud, pardon, qui a conservé lui aussi son poste. Donc, ce qui va rendre difficile la reconquête du Sénat par les démocrates, professeur Colli.
Oui, et vous avez absolument raison. Et bien entendu, nous avons aussi de notre côté le sénateur Doug Jones d'Alabama qui a perdu son siège, mais de l'autre côté, le Colorado. L'ancien gouverneur Hicklin, je ne peux pas prononcer son nom de façon correcte, qui aussi a gagné du côté des démocrates. Et dans l'Arizona, nous avons Mark Kelly qui semble dominer. Il est un point avant sur Max Sally, l'ancienne sénatrice qui a été nommée après le décès de John McCain. Donc nous avons jusqu'ici, n'est-ce pas, je dirais peut-être une certaine égalité. Bien entendu, les démocrates sont un peu en retard, puisque, n'est-ce pas, au niveau du Sénat, les républicains dominent. Les démocrates doivent gagner 4 ou 5 sièges pour prendre le contrôle du Sénat. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore le cas, mais on attend et on va voir ce qui va se passer. Et je crois que pour le moment, les républicains sont en bonne position.
René, en fait, il fallait 4 sièges qu'il faudrait gagner pour les démocrates s'ils veulent assumer le contrôle du Sénat. Ou si, par exemple, Biden était élu en ce moment-là, bon, 50-50, et puis le vice-président ou la vice-présidente pourrait éventuellement trancher en cas de, n'est-ce pas, de vote serré entre les deux partis. Mais tel n'est pas le cas pour le moment.
Tout à fait, Idrissa.
Dans l'Alabama, on s'y attendait parce que l'Alabama est un État rouge, comme on dit, un État républicain. Ce qui s'est passé avec Doug Jones la dernière fois, c'était en quelque sorte une aberration parce que les républicains n'avaient pas un très bon candidat. Et c'est ainsi qu'il a été élu. On s'attendait à ce qu'il perde. Et son adversaire était un coach, un entraîneur de football d'une équipe universitaire très célèbre, Auburn. Et sur cette base, on pensait qu'il allait gagner.
Oui, tout à fait. Mais bon, c'était, comme vous le disiez, Alabama, on ne pensait pas que Doug Jones avait la moindre chance, en tout cas sur les sondages des derniers mois. Par contre, la grande déception, ça a été Jimmy Harrison, qui lui semblait le candidat démocrate pour la Caroline du Sud, qui lui semblait être en bonne position jusqu'à il y a quoi, à peu près 2 semaines. Et sur les 2 dernières semaines, la RNC, donc le Parti républicain, a injecté des sommes d'argent très très importantes pour soutenir Lindsey Graham, qui finalement l'a remporté. Donc, mais comme le disait le professeur Colli, Mark Kelly s'est quasiment assuré, même déjà certains médias l'ont projeté comme vainqueur en Arizona, et ce qui est assez logique parce que je pense même qu'à la limite, Mark Kelly peut avoir aidé, je suis prudent dans les mots que j'utilise ici, Biden a gagné éventuellement l'Arizona. Ce serait en fait le deuxième État qui passait du rouge à bleu si les tendances actuelles se confirmaient.
Mark Kelly, il faut le dire, est un ancien astronaute. Son frère jumeau est astronaute aussi. Et une particularité, il s'est particulièrement distingué dans la lutte contre le port des armes à feu, parce que son épouse, qui était une députée, ce qu'on appelle représentant ou représentante ici, au Congrès, a été grièvement blessée lors d'un attentat avec une arme à feu. Alors donc, voilà le monsieur en question qui apparemment a été élu dans l'Arizona comme sénateur. Mais il faudra un peu plus pour que les démocrates contrôlent le Sénat. Tim?
Oui, alors un autre souci par rapport à ces élections américaines.
Attendez, Tim, oui? Je crois que le président Trump est en train de parler. Jean-Roger, est-ce que vous avez pu saisir ce qu'il a dit au début?
Ben, disons que le président a d'abord remercié le peuple américain et pour tous ceux qui sont sortis massivement pour, selon lui, voter pour lui. Et il a notamment réclamé le fait que sa campagne a remporté la victoire en Géorgie et au Texas notamment. Et ce sont des états bascules qui pourraient donc faire tourner le résultat à l'avantage de l'un des candidats, notamment lui-même, le président Donald Trump. Et donc, en attendant confirmation de tout ce qu'il a dit, le compteur de la VOA à ce stade précis marque pour Joe Biden 220 grands électeurs et Donald Trump engrange 213 grands électeurs. C'est une grande remontée de la pente parce que précédemment il était à 184. Donc le scrutin est plus que jamais serré. Les résultats sont serrés, le décompte est serré. Et à ce stade, personne ne peut prédire quoi que ce soit. On attend les résultats de la Pennsylvanie, de la Caroline du Nord, de la Floride, et les consolidations des résultats qu'il vient de lui-même annoncer, le Texas et la Géorgie notamment. Les services compétents de la voie sont en train de faire le travail nécessaire pour nous fournir les derniers résultats. En tout cas, il n'est pas évident qu'on les ait au cours de ce journal, mais dans nos prochaines éditions, on pourrait donner des précisions plus percutantes. Idrissa?
Oui, merci Timothée. Alors, le président qui s'émerveille des victoires, disant regardez là où l'on a gagné tous ces États, etc. Et il est particulièrement fier de sa performance, de toute évidence. Alors, Tim. Vous étiez en train de dire.
L'une des préoccupations des autorités américaines par rapport à ces élections de 2020, c'est que ce problème de sécurité, on l'a vu en 2016 avec les attaques des hackers russes contre les systèmes électoraux dans les États, ici aux États-Unis. Et cette année, la menace est là, mais apparemment, les responsables de la sécurité veille au grain, donc il y a eu un peu moins de problèmes par rapport à 2016, René.
René,
il n'est pas parlant.
Bon.
Alors, professeur Colli.
Oui, jusque-là, nous n'avons aucune indication d'incident lié au scrutin, mais il faudra quand même, n'est-ce pas, être vigilant dans le sens où le président Trump, à la fin de sa campagne, n'est-ce pas, a clairement indiqué à certains de ses partisans, n'est-ce pas, nous allons être vigilants. S'ils veulent voler, et ça c'est bien entendu, je cite de mémoire, notre victoire, nous aurons, n'est-ce pas, les moyens de nous battre pour récupérer ce qui nous est dû. Et donc, je crois que peut-être c'est tout simplement un langage relativement hyperbolique, mais pour le moment, nous n'avons pas d'informations concernant des troubles en ce qui concerne les élections. Et donc, à ce point, je crois que tout se passe bien. Les gens ont pu voter dans la quiétude, en toute sécurité. Et
merci beaucoup.
Que cela va
merci beaucoup, professeur Edgar Colli. Merci, professeur Edgar Colli. Merci à notre confrère René Lec, à mon collègue Timothée Donangmaï et Jean-Roger Dion. Lionel Gaïma à la technique et notre ami Smith à la technique aussi. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia. Pour le reste de l'actualité, restez à l'écoute avec Jean-Roger.